Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Bonjour à tous, c'est un voyage radiophonique que nous vous proposons aujourd'hui. Nous partons du Café Fluxus qui nous accueille ici à la Fondation du Doute à l'occasion des 27e rendez-vous de l'histoire de Blois. Et nos invités vont nous emmener dans l'un des quartiers les plus mythiques de la Méditerranée, la Casbah d'Alger. Nos compagnons pour ce voyage, Nabila Chérif, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte des sites et des monuments historiques, professeur des universités à l'École polytechnique d'architecture et d'urbanisme d'Alger. Vous connaissez la Casbah pierre par pierre quasiment.
On va dire que je la connais assez bien, oui.
Et Jacques Ferrandez, illustrateur, auteur de BD, vous êtes un grand amoureux de l'Algérie, vous êtes allé beaucoup dans la Casbah. Je vais citer les Carnets d'Orient, publiés chez Casterman en 1987. Et puis ici, nous sommes venus avec un ouvrage de chez Actes Sud, La théorie d'Alger, de Sébastien Lapac, que vous avez illustré.
أنا لو شتكيت للفلاك بهم طويل تنتظر من حالتي وتعبي وهوادي.
Et elle en véhicule un des rêves, des images, cette Casbah d'Alger. Pour vous, Nabila Chérif, quand vous pensez à la Casbah, qu'est-ce que ça vous évoque, votre première fois à la Casbah ?
Étudiante en cinquième année d'un cursus d'architecte. Et j'avais choisi de travailler dans un atelier qui a été intitulé « Architecture traditionnelle ». Et le terrain d'étude était la Casbah d'Alger. Mais ce choix, je ne l'ai pas fait fortuitement. En réalité, j'ai été baignée dans ma famille, dans les histoires, les légendes, les mythes, les rues de cette Casbah que je ne connaissais pas jusqu'alors, parce que mon père est né à la Casbah d'Alger. Il y est né, mais sa famille a quitté cette ville bien avant l'indépendance de l'Algérie, dans les années fin années 40, début des années 50. Mais les souvenirs de mon père, de sa famille, de mes tantes, meublaient nos soirées, les anecdotes, la description de certaines rues. Et j'ai été toujours très, très étonnée de la précision avec laquelle mon père décrivait ce dédale de rues et les connaissait les unes après les autres. Voilà, donc dès que l'occasion s'est présentée à moi, en cinquième année, j'ai dit, s'il y a un terrain d'étude qui s'appelle la Casbah d'Alger, eh bien j'y serai.
Et vous, Jacques Ferrandez ?
Ben moi, c'est une histoire un peu différente parce que je suis né à Alger, je n'y ai jamais vécu. Mes parents ont quitté l'Algérie en 1956, juste après ma naissance. Et je n'ai cessé, à partir du moment où j'ai commencé à faire de la bande dessinée, de m'intéresser à cette histoire-là, c'est-à-dire pourquoi j'étais né à Alger, pourquoi il y avait dans ma famille ce qu'on a appelé des pieds noirs, enfin quelle était l'histoire de toute cette présence française en Algérie. Et je me suis mis à essayer de raconter cette histoire en la prenant depuis le début, donc j'ai eu l'occasion de dessiner la Casbah sur des histoires qui se déroulent dès les années 1830. Ça m'a permis aussi d'avoir une géographie, sans y être allé à ce moment-là, une géographie assez précise de ce qu'était Alger, avec les différentes mutations au fur et à mesure de l'occupation française, les constructions, l'Alger haussmannienne, enfin, qui a pris place au pied de la Casbah. Et puis, en 1993, j'ai eu l'occasion pour la première fois d'aller à Alger. Alors c'était déjà le début de ce qu'on n'appelait pas encore la décennie noire ou une guerre civile, on ne savait pas comment ça allait tourner, mais c'était déjà les attentats, il y avait déjà beaucoup de meurtres et d'assassinats plutôt ciblés à ce moment-là, d'abord sur les militaires, les policiers, puis les intellectuels, les journalistes, les hommes de théâtre, des médecins, notamment un médecin de la Casbah, un pédiatre. Et moi j'arrive à Alger à ce moment-là, et j'avais en fait dans ma poche la recommandation pour aller voir un personnage qui s'appelait Hemoud Brahimi, Momo de la Casbah. C'était un poète tout à fait emblématique de la Casbah, reconnu par tout le monde. Et c'était vraiment une figure. Il avait connu toute la vie intellectuelle, culturelle d'Alger dans les années 30, 40, 50. Et j'ai eu la chance, le privilège de pouvoir faire une visite de la Casbah avec Momo.
Je me présente Hemoud Brahimi. Je suis musulman, un enfant de la Casbah, homme de théâtre par surcroît.
Et c'était le moment où, déjà, la Casbah était le fief des islamistes. Et donc, c'est à partir de là que j'ai eu cette connaissance de la Casbah, où je n'ai pas pu retourner jusqu'aux années, au début des années 2000. Et pratiquement, je suis retourné en Algérie chaque année depuis 2000, vous voyez. Donc, ça fait une vingtaine de fois que j'y retourne. Et à chaque fois, je vais dans la Casbah, parce que j'ai maintenant des contacts aussi, vous voyez. Donc, j'ai une espèce de familiarité aussi avec ce lieu géographique.
Nabila Chérif, on va profiter de ce que Jacques Ferrandez nous dit sur ce dessin d'Alger dès 1830, sur la structure de la ville qui a été très marquée par la colonisation française et par l'empreinte que les Français vont amener dans cette vieille ville, dans ce cœur historique.
Quand les Français arrivent en 1830, c'est une ville qui est déjà construite, bien dense. Un comptoir phénicien, une ville antique, une ville berbère qui n'avait pas occupé le triangle qu'elle occupera ensuite pendant la période ottomane, mais qui avait déjà amorcé sa montée sur la colline, parce que c'est une ville qui est en amphithéâtre sur la mer. Et puis voilà, les Turcs, les Ottomans, les frères Barberousse, les redoutables frères Barberousse, arrivent en 1516-1517. Et ils viennent officiellement à la rescousse des Algérois qui leur demandent de les débarrasser du péril espagnol qui est juste en face de la ville, sur ces petits îlots qui s'appellent El Jazair, qui pluriel de Jazira, qui va donner le nom d'Alger. Eh bien, ils sont venus et ils ne sont plus repartis, puisqu'après nous avons eu près de 3 siècles et un peu de présence turque, ottomane. Alger était une ville vassale de l'Empire ottoman. Alors quand les Français arrivent, ils trouvent une ville bien pleine. Et c'est d'abord un régime militaire, évidemment, c'est une colonisation militaire qui va imposer ses marques. Et ses premières marques, ça va être d'abord de considérer que la ville est trop dense et que des militaires ne peuvent pas circuler. Il leur fallait des champs de tir, il leur fallait une place d'armes, il leur fallait des voies élargies, pour bien voir, parce qu'ils ont été déroutés dans ce labyrinthe de rues. Et donc les transformations qu'ils vont opérer dans la ville, eh bien, ce sont d'abord des transformations qu'ils vont pouvoir faire dans la partie basse, qui est la partie plutôt plate. Ils ne s'aventureront pas tout de suite dans la partie colline, qui, elle, est beaucoup plus redoutable. C'est l'Alger des barbaresques. C'est une ville imprenable, qui est impressionnante par ses rues couvertes, souvent couvertes d'ailleurs avec des encorbellements, et qui ne connaît pas les rues d'Alger ne peut pas s'y aventurer. Qui ne connaît pas les rues de la Casbah ne peut pas s'y aventurer. Donc les Français, par prudence, ils sont restés dans la partie basse, qui en fait est en relation avec le port qui deviendra le poumon économique. Et c'est là qu'ils vont opérer aux transformations de cette ville. Voilà.
Quand on essaye de redessiner une Alger qui n'existe plus, enfin cette Casbah notamment, qu'est-ce qu'on dessine? Qu'est-ce qu'on a envie de dessiner en premier quand vous vous êtes rendu en 1993 dans cette Casbah d'Alger que vous avez essayé de réimaginer la ville de 1830?
Il y avait des documents, donc il y avait des peintures, il y avait des gravures, il y avait des relevés qui avaient été faits à l'époque par les architectes militaires. Effectivement, la création d'une place d'armes qui est devenue la place du gouvernement, aujourd'hui place des martyrs, avec la démolition d'un certain nombre d'édifices, des mosquées. Certains édifices ont été conservés, comme la mosquée de la Pêcherie, qui est toujours visible, la grande mosquée. Et puis il y a eu cette espèce de saignée à peu près à mi-hauteur de la Casbah, à l'horizontale, pour créer là aussi une voie de circulation avec un marché au milieu, devant la synagogue. Enfin, vous voyez, bon, il y a toute une histoire qui s'est faite aussi avec cette présence française, qui a modifié l'organisation de la ville, si vous voulez. La ville était ceinturée de remparts aussi. Il y avait 2 remparts qui partaient du haut de la citadelle et qui descendaient jusqu'à la mer, donc avec la porte du ruisseau, Bab El Oued, et puis la porte de l'autre côté, Bab Azoun. Ce qui fait que, effectivement, quand on dessine ça, alors, donc je parle sous le contrôle d'une architecte, mais quand on dessine des bâtiments, il faut toujours faire attention à la perspective, aux alignements, etc. Là, le bonheur de dessiner la Casbah, c'est qu'on peut laisser aller son crayon et son trait parce qu'il n'y a pas un seul angle droit. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont... Les verticales ne sont pas tout à fait. Enfin, il y a beaucoup de choses, il y a des volumes extraordinaires, ces espèces d'encorbellements, ces rues en escalier, etc. Donc, il y a une espèce de plaisir et
de sensibilité la pierre,
oui, à dessiner cette architecture.
Dans cet ensemble architectural qu'est la Casbah d'Alger, il y a quelque chose qui est très important, dont on n'a pas encore parlé, c'est le monde, c'est les gens, les enfants. Il y a un monde fou dans cette Casbah, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, malgré l'histoire, malgré les violences.
Oui, c'est le cœur vivant d'Alger, c'est sa mémoire, c'est la mémoire de tout un peuple qui est cristallisée dans cette vieille Casbah. Et aujourd'hui, c'est vrai que même pour ceux qui habitent dans les autres régions du pays... et l'Algérie est un pays continent, tout le monde vient à la Casbah. Parce qu'elle a maintenu, depuis surtout les opérations de réhabilitation, elle a maintenu une forme de vie sociale, une animation, beaucoup de boutiques qui font un peu dans l'artisanat. Et toutes les jeunes filles viennent faire leur trousseau de mariage, quelle que soit leur origine. Elles viennent acheter les belles soieries, les belles chaussures, les beaux parfums, dans cette partie justement basse, autour de la rue de la Lyre, qui a maintenu justement très vivante cette mémoire. Alors on l'appelle le centre historique, mais ça reste le cœur battant d'Alger. Quand les Français ont déplacé leur quartier, la nouvelle ville française, plus au sud, ils ont construit une très belle ville, il faut le dire. Ils ont déplacé le centre de gravité, d'abord à côté de la grande poste d'Alger, boulevard La Ferrière. Ce sont des endroits fabuleux aujourd'hui dans lesquels on peut trouver des architectures qui sont très représentatives de tous les mouvements d'architecture qui étaient en métropole. Il y a un centre de gravité qui s'est déplacé. Il s'est déplacé de plus en plus vers le sud. Mais le point d'origine, le point de démarrage reste la vieille ville.
Jacques Ferrandez, est-ce que les habitants de la Casbah, c'est tous des momos? Ou est-ce que ce sont des gens qui ont changé aussi, des Algériens qui viennent d'ailleurs, que vous voyez changer ces dernières années?
Je vais dire malheureusement non, parce que Momo, il avait une science d'habiter la Casbah, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qu'on peut déplorer aujourd'hui, c'est que la Casbah a été un peu le réceptacle de l'exode rural. C'est considéré comme un quartier insalubre. On ne peut pas se garer, évidemment, on peut venir en voiture, donc ce n'est pas super pratique. Donc les gens qui aujourd'hui ont la science d'habiter la Casbah sont très rares. Certains essayent de restaurer leur maison avec un peu les moyens du bord. Et puis, beaucoup de maisons se sont effondrées et continuent à s'effondrer. En 1992, il faut savoir qu'elle a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, mais il ne s'est pas passé grand-chose. Bon, il faut dire qu'il y a eu la décennie noire qui est arrivée juste à ce moment-là. Mais visuellement, on a plutôt l'impression que ça se dégrade d'année en année. Et peut-être aussi parce que la manière d'habiter, souvent comme c'est considéré comme un quartier insalubre, les gens sont en attente d'habiter dans des logements neufs à l'extérieur, donc ils sont sur des listes d'attente. Et en attendant, évidemment, comme il s'agit d'être prioritaire, j'avais entendu dire que certains dégradent volontairement l'habitat. Donc il y a une espèce d'accélération dans certains cas de la dégradation. Et parfois on voit même des pâtés de maisons entiers qui se sont effondrés, parce que quand une maison tombe, elle entraîne toutes les autres à sa suite. Et certains de ces pâtés de maisons aujourd'hui sont, dans le meilleur des cas, ça a été déblayé, ça devient un terrain de jeu pour les enfants. Mais dans le pire des cas, c'est souvent un monticule de gravats qui sert de dépotoir. Moi, ça me rend toujours assez triste quand même de voir cette absence d'esprit de maintenir ce patrimoine.
Alors, je crois, Nabil Achev, qu'il y a une volonté de restaurer. Il y a un temps qui est sans doute long. Et puis, il faut peut-être distinguer entre ce qui est bâtiment public et ce qui est l'habitation.
Oui, tout à fait. En fait, ce que vous décrivez est une situation qui n'a plus lieu depuis, on va dire, un peu moins de 7-8 ans, parce que d'abord cette question de densification par une population effectivement qui venait de l'intérieur du pays, donc une exode rurale, aujourd'hui ce processus de ville tremplin n'est plus, parce que tout simplement les derniers recensements qui datent depuis 7-8 ans, eh bien à chaque fois qu'on recense une maison, elle est murée pour empêcher la venue de nouveaux arrivants. Ensuite, il est vrai que jusqu'aux années 2000, ça a été cette fameuse décennie noire, on en a parlé, mais entre-temps, en 98, donc il y a une loi, la loi 98, qui désormais donnait les outils d'intervention sur les centres vivants historiques. Parce que les lois que nous avions auparavant, et elles datent de 67, héritées des lois françaises sur la conservation du patrimoine, c'était des lois qui figeaient les édifices comme des musées et qui ne considéraient pas que les édifices restaurés pouvaient devenir des lieux de vie avec toutes les normes de modernité. Et surtout, on ne concevait pas dans cette loi 67 un système de gestion et de mise dans les circuits économiques du tourisme. Tout ça était hérité en fait d'une vieille conception du patrimoine qui est très italienne. Et donc depuis 1998, Il y a une vision, un paradigme nouveau qui considère que les centres anciens sont d'abord des centres vivants et on doit les considérer en tant que portions de villes vivantes. Et donc aujourd'hui, nous avons des mécanismes, nous avons un plan de sauvegarde dont l'étude a demandé un certain nombre d'années. Alors maintenant, nous sommes dans un plan de gestion et d'action qui prend les choses par secteur. Les monuments historiques qui sont compris dans le secteur de l'ancienne ville sont à peu près tous restaurés. Il reste ces agrégats de maisons compactes, il est vrai, dont on a perdu une partie importante parce que tout ça a pris énormément de temps. Eh bien, tout cela maintenant fait l'objet de travaux, d'interventions. Alors, il y a d'abord eu les mesures d'urgence parce qu'il a fallu consolider toutes ces maisons qui sont effectivement appuyées les unes sur les autres comme un château de cartes. Et après les mesures d'urgence, eh bien, les opérations de restauration, réhabilitation sont entreprises les unes après les autres. Mais je voudrais dire une chose, il a fallu aussi prendre le temps de former des générations d'architectes, aussi former des entreprises de terrain, des tailleurs de pierre, des forgerons. Et vous savez que la formation professionnelle n'attire plus beaucoup de jeunes, donc il a fallu faire aussi beaucoup de forcing là-dessus. Et puis le temps de former un architecte, un des sites... Les monuments historiques, il faut une dizaine d'années, même un peu plus. Mais les choses s'apprennent et je sais que moi je vis à Paris en ce moment, mais j'y retourne régulièrement et je vois effectivement qu'il y a des avancées sur un certain nombre de secteurs de la ville.
Carrefour du Maghreb avec l'architecte des sites et des monuments historiques Nabila Chérif et le dessinateur Jacques Ferrandez. Merci au rendez-vous de l'Histoire de Blois pour leur accueil et à Richard Rifono pour les moyens externes. C'est le porte-drapeau du Zenkawi, un genre musical à la croisée du rap, du raï et des chants de supporters, Didin Canon 16, normal.
سحور اللي رشاني وانا صادم بني يا بابور اللي نساني مبري بريشك وفي يوم معروف تحب الفاني يا هدي الدتي هدني ونورمال عيشنا ونورمال حالو عبادك حالو كي وليتي يا دنيا اكتر وفيك غير اللي جالو بغاونا نعيشو البلي يا مالي يا قلبي مالو الهموم تغاو عليا ونورمال نعيشها نورمال صرالو قلبي تصرالو اقدم والف بالكي يا سلطان ما يحرف حوالو وصرارها المخفية نشقاو نبحر البالو ونغلق البارتي يا نورمال كملها نورمال بغيت روحي بروحي بغيتي تروحي روحي شتديرو لي دوخي انا واش يهمناش غدرت وما نسيت فاضت اللي استا يا ربي امين تفرج جريتها يا ربي ما نسيت حزاني خبيتها سعفني قلبي سعفني روحي لها وحدة وحدة ديرها باللي نشوك الورد قبل ما تعشق شاورني نتفاهم قبل ما تبدا نورمال ونعيشها نورمال
Didin Canon 16 Normal, Carrefour du Maghreb, à la réalisation Françoise Grelot. Le podcast de l'émission est disponible sur l'appli Pure Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.
كملها نورمال وسحور هاللي